Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, substantif.
Qui a rapport au menstru.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin, presse clandestine.
Domaine des sensations, domaine de.
Les filles sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12 ans.
Qui existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des
ballons,
lois établies.
Mine, vitre qui.
L'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche,
les gamins
de la procédure normale et lycée.
Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présages.
Surtout en Espagne et en Italie.
Un bon matin, le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène
m'éclatait en constitution et de leur manière
il ne serait pas du cavaleur.
D'un choc ou d'un changement
de l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotimie.
En parlant d'un inanimé concret et abstrait.
Entre parenthèses, Rossignol, dict.darg.arc.fr et fr.arc.1901, page 24.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Sous la surface de l'eau, au fin fond de la mer, se trouvaient des massifs montagneux dont les sommets ont émergé lors d'éruptions il y a plusieurs millions d'années. Maintenant dispersés dans l'Atlantique, comme quelques poignées de roches d'origine volcanique, ils forment l'archipel du Cap-Vert au large de l'Afrique. Chères toutes, chers tous, c'est Noël. Depuis l'île de Saint-Nicolas au Cap-Vert, dans la ville de Tarrafal, cette ville de pêcheurs, vieille d'à peine 100 ans. Ma fenêtre, le son des fêtes, et le bruit incessant des vagues qui s'écroulent sur les plages noires. Arrivé du Sénégal en voilier, un bateau m'a déposé. J'ai glissé, fasciné, par cet endroit si aride et pourtant habité. Ainsi redevenue terrienne, j'ai marché, ne sachant pas trop parler, à peine interprété. Des pierres, des cailloux, des pierres et pas de pluie. Au milieu de l'Atlantique, paumé, coupé du monde, une sensation agrandie par la barrière immense et omniprésente de l'horizon qui nous encercle. Sur cette petite île simple, très peu peuplée, à la terre ocre, sèche et piquante, il n'est pas toujours facile de produire, donc de survivre. Pourtant, l'humain y est, y reste. Puis un jour, le pays a fermé ses frontières et j'ai loupé les départs, celui du bateau, des vols de rapatriement, puis j'ai loupé mon envie de partir. Quelque chose m'avait happé. Il y avait cet endroit encore plus chaud, abandonné à l'extérieur de Tarrafal, où l'odeur des cochons remplace celle des poissons. Et les mouches, des pierres, des cailloux, des restes de fondations. Pas d'ombre, nulle part, jamais. Six rectangles, strictement alignés. Anciens bâtiments, froidement immobiles et muets, qui pourtant racontent. L'imagination peut entendre une musique sombre et terrible, qui porte l'angoisse d'un temps qui fut et qui persiste dans les mémoires, parce que les traces sont encore visibles, même si rares. Avant, sur les fondations, des murs. Entre les murs, des corps, là-dedans, au milieu du monde, isolés, des corps qui pensent entre les murs. À la liberté, je gratte. Petit à petit, le bruit incessant des vagues transforme les contours.
Donc on avait à Saint-Nicolas la chambre de concentration, très très importante, qui n'était pas connue. Donc j'étais à Portugal, j'ai fait mes recherches, les archives, tout ça. Et j'étais même invité pour l'ancien président de la République, Mário Soares. Il m'a dit de prendre ça, de conserver les mémoires qu'elle a. C'est une mémoire qui est un peu universelle. Je pense que cette ruine, c'est une mémoire de l'histoire du fascisme européen.
Et ici à Tarrafal, il y avait beaucoup de monde à l'époque du camp.
Non, il n'y avait rien. C'est juste pour ça qu'elle a fait les prisons ici. Un lieu terrible où les gens, ça pas mort. C'était l'idée. Ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il avait un peu l'histoire de la pêche. Parce qu'avant, il avait une industrie ici de chasse à la baleine. C'était catastrophique ici à Tarrafal. C'est pour ça qu'elle a fait les prisons ici.
L'époque de construction, c'était
1931, avec des matériaux que l'Allemagne a donnés à Portugal, en bois. C'était des maisons en bois, gros maisons, qu'elle fait là pour remettre plus de 100 prisonniers.
L'Allemagne, c'était Hitler, donc, à cette époque.
Oui.
Il encourageait ce genre de...
Bien sûr. Salazar est inspiré, vraiment. Pour Hitler, pour Mussolini, tout ça, c'est vrai. C'était un régime fasciste terrible qui est resté jusqu'à 1974. Portugal avait un régime un peu terrible.
Quel genre de personnes étaient enfermées là? Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Ils faisaient partie de la gauche, mais quelles activités?
Ah oui, surtout de la gauche. Militaires, il avait des militaires, grands officiers de l'armée portugaise. Il avait un très célèbre, qui c'est un médecin très, très bon, très humain, qui est resté ici, qui était marié avec une femme de Saint-Nicolas, qui a fait des choses très incroyables ici à cette île de Saint-Nicolas. Il avait des ingénieurs, il avait de tout. C'est surtout celle de gauche, c'est pas valable en prison. Si elle savait qu'elle est de gauche, en prison. Pas de jugement, c'est ça? Pas de rien. Les gens connaissent pourquoi je suis en prison. Elles ne savaient pas. C'était comme ça le régime portugais.
Donc les activités des gens de gauche étaient secrètes?
Oui, ils travaillaient, mais c'est politiquement, doit être fermé la bouche. C'est le gouvernement de couvre qui fait politique en prison. Et la gauche française était vraiment contre ce régime fasciste extrême à Portugal. Tous les journaux français de gauche, l'Humanité, Le Monde, a fait grande pression sur Portugal. Et après, les Américains aussi commencent à faire des pressions sur Portugal. Il était obligé de fermer la prison. Et donc la gauche française avait des relations et elle s'occupe de faire des dénonces publiques sur cette situation qui était terrible, terrible, terrible à Saint-Nicolas. Les gens morts, il avait de tuberculose dans la prison et le gouvernement s'en fout. Les gens sont morts à un cimetière ici de Ribeira Brava.
Adelino Fonseca de Magalhães, Celestino Rosa, Fernando Antunes Alves, António Joaquim Ferreira Cabral, Rogério dos Santos, Muniz Almeida, Jaime Conde, José António Camoesas, Vasco Martins dos Reis Nunes, Manuel Ferreira Camões, José Arrespeita Mota, Joaquim Pinheiro Vila, Manuela João,
il y avait une police chargée de trouver les opposants politiques sous le régime de Salazar. Est-ce qu'il y avait une police spéciale?
Oui, oui, ça fait PVDE en premier, police de surveillance et défense de l'État. Et après, c'était terrible, un peu comme Gestapo. Et après, il a changé le nom qui vient PID, police d'intelligence et défense de l'État. Il a changé un peu, mais c'est la même chose. C'était une police terrible, 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 qui était arrivée à la brave partout, partout, partout. C'est la police politique de Salazar. Il avait PVD qui vient, PID, très connu ici à Cap-Vert. Très connu au Cap-Vert. Et la PID a continué jusqu'à 1974. Il y a par exemple Balthazar Lopes, qui ne faisait rien. Il n'était pas un politicien. Il était intellectuel, professeur, avocat, mais Portugal, avec le service, la police intelligente, savait que lui, il faisait une action politique pas discrète. Et il a reparti à Portugal pour faire sa thèse de doctorat. Pas laissé. Il est invité pour être professeur de l'Université de Portugal. Pas laissé.
Mais il était basé où, la PIT?
À Praia. Il avait une section à San Vicente, surtout. Mais ils étaient partout, par exemple. Avant, il avait la mère, il avait un type, le responsable de l'île, qui était quelqu'un, la PIT aussi. Donc, on était tout le monde au Cap-Vert était sous surveillance de la police de Salazar.
Et toi, quand tu as fait tes recherches, tu as eu affaire à la confidentialité de ces documents?
Oui, oui. J'étais au Portugal à supporter pour le gouvernement portugais. Et il m'a donné les crédentiels pour rentrer dans ses archives. C'était un peu difficile, mais finalement, j'ai rentré. Et un peu partout, il a des gens, les fils de ces gens-là qui m'envoyaient de documentation privée. J'ai beaucoup, beaucoup ici, de lettres privées, j'ai beaucoup, photographies, tout ça. Et par instant, je suis l'unique chercheur qui s'occupe de ces parties-là, parce qu'il n'y a pas d'archives. Alors, mais j'ai beaucoup de matériaux de familles. Qui m'a donné. C'est des matériaux très, très spéciaux que la police n'a pas trouvé. Par exemple, une photographie très intéressante qui était gardée dans le sol plusieurs années.
Mais les prisonniers n'avaient pas de contact avec ce qui était en train de se passer au Portugal.
C'est à Saint-Nicolas. Ils savaient rien, rien, rien du tout. Même la famille à Portugal, ils ne savent pas où les gens qui sont morts, où ils sont. Parce qu'ils partaient de Portugal, passaient par les îles de Madère, ils ont laissé soit Saint-Nicolas, soit Angola, soit Mozambique, soit Timor-Leste, très loin. Et les gens ne savent pas où ses papas est enterré. C'était terrible, terrible, vraiment terrible. Il y avait de militaires qui les gardent, disponibles pour tuer quelqu'un si il avait besoin, tout ça. Il les était interdit de lire rien. Il n'avait rien d'information sur ce qui a passé à l'extérieur. La nourriture, c'était peur. Il n'avait rien, il avait la viande. Qui était potre, une de la potre, qui était détruit, il était obligé de manger. Et il avait surtout la maladie, à ce moment-là. Et si quelqu'un était malade, s'en fout, reste là. Il commence à faire la contamination, la tuberculose. Il avait une, on parle de fièvre palustre, paludisme. Ils s'en foutent. Les gens sont morts, enterrés au cimetière. C'était comme ça. Terrible, terrible.
5. Que o portal principal se mantenha sempre fechado, abrindo-se apenas para dar passagem ao pessoal serventuário ou graduado. Aquele entrará ao toque para
la sonnerie pour le premier repas et sortira après la sonnerie du service. Sauf cas exceptionnels, comme les personnes reconnues par le concierge.
6. Que por ocasião da entrada e saída do pessoal serventuário,
qu'à l'occasion des entrées et sorties du personnel de service, ce dernier devra être sujet à un contrôle effectué par le concierge afin d'éviter qu'il soit porteur d'éléments en lien avec l'extérieur ou d'objets ou de boissons.
Que ali poderá entrar com autorização do comandante do campo.
7.
Que as lavadeiras deverão receber as
que les blanchisseuses devront recevoir les vêtements de la main des gradés chargés du mobilier et des vêtements en dehors de l'édifice où sont les prisonniers. 8.
Que nenhum preso poderá,
qu'aucun prisonnier ne pourra, quel que soit le motif, être responsable des services de cuisine ou autre encadrement, sauf dans les cas où le commandant du camp le juge nécessaire. 9.
Que
le service d'approvisionnement des repas soit fait à travers une petite écoutille ouverte dans le portail principal, employant un personnel strictement indispensable. 10. Qu'il est absolument interdit aux prisonniers de faire l'usage de signes distinctifs ou insignes qui ne sont pas directement d'utilité. Ceux qui ne respecteront pas cette recommandation subiront un processus disciplinaire. Attention, on prévient tous les déportés du camp de concentration qu'il leur est totalement interdit de passer la clôture après le couvre-feu. À cette heure, tous devront être rassemblés. Il sera seulement autorisé de se rendre aux toilettes de l'édifice. Toutes les sentinelles et patrouilles ont pour ordre de réprimer par les armes quelconque outrage ou mépris. São Nicolau, 23 juin 1931, par le commandant du camp, André Dias da Silva. Copie de l'avertissement affiché sur la boîte aux lettres. Camp de concentration des prisonniers politiques de São Nicolau. Attention, par ordre supérieur, sera confisquée toute correspondance particulière qui 1. Ne sera pas livrée ouverte. 2. Ne sera pas affranchi. 3. Ne traite pas de sujets purement familiers.
São Nicolau, 23 de junho 1931. Pelo comandante do campo, André Dias da Silva.
A situação dos deportados, 1931-1932.
Et c'est très intéressant l'histoire de la prison de São Nicolau, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement portugais a fait changer le modèle prisonnel. Avant, la prison, c'était une île. Les îles de Açores, à Madeira, chaque île, c'était une prison. Mais après la rébellion, la manifestation qu'ils ont fait à Madeira, donc le gouvernement portugais est obligé, il a changé à ce moment-là d'une île pour une prison dans l'île. Donc, elle a fait une espèce d'essai ici à São Nicolau, ça fonctionnait bien. Donc, elle a refait une autre prison à Angola, prison de São Nicolau, ça s'appelle, São Nicolau. Une autre à Mozambique et à Timor, l'Orosai, Timor-Leste. Elle a fait deux à Viquec et à Taour. Elle a profité aussi des îles qui sont à côté de Guinée-Bissau, Ilha das Galinhas, il a fait aussi une prison. Donc c'est un peu la vie à la prison là. Après, ils ont des problèmes pour donner l'alimentation. Ça passait très 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 mal. Que l'État portugais était obligé de les laisser dans un régime de semi confination, semi-ouvert, c'est ça.
Ils avaient le droit de se balader le jour.
Oui, une espèce de régime semi-fermé, semi-ouvert. Donc, ils baladaient par là, ils retournent pour mettre en prison à la nuit, Et ils ont mis en relation avec les femmes de Saint-Nicolas. Ils ont laissé beaucoup, beaucoup de fils ici à Saint-Nicolas, les Portugais. Même ici à Tarrafal, jusqu'à 1933, quand forcés pour les pressions internationales, ben Salazar s'était obligé de laisser partir. Je pars de 1933, le 5 décembre 1932, il avait une amnistie, une loi portugaise qui met en liberté et qui, en même temps, déclarait la résidence obligatoire à Saint-Nicolas. Donc les gens étaient obligés de rester ici et de faire quelque chose pour survivre. Il avait cette là que j'ai parlé, Manuel Camões, qui était médecin. Il commence à travailler à sa maison, on reçoit des gens qui donnent un peu d'argent. Elle a vécu ici à Fagin une vie très difficile.
Mais donc, s'ils arrivaient à avoir un régime en semi-liberté, ils avaient, qu'ils pouvaient avoir des familles, par exemple des femmes, ils pouvaient peut-être aussi communiquer des écrits.
Oh, à ce moment-là, c'est... Ah oui, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui, mais toutes les lettres étaient ouvertes à la poste. Il avait que ce type que j'ai parlé là, Adalberto Gastão Souza Dias, qui était un militaire, un général, qui avait une espèce de code avec son fils à Portugal. Il écrit, mais avec un code que la police ne peut pas comprendre. Donc, l'information qu'on a de cette. Que j'ai parlé ici, de la situation. C'est lui qui a fait passer par son fils à Portugal. Avant de venir ici à Caverne, il a discuté avec son fils d'une manière, la stamp, tout ça, qui fait comme ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il a passé un peu l'information au Caverne. Mais c'était vraiment difficile, tout contrôler à la poste.
Le lieu choisi est juste épouvantable. Ô Tarrafal, misérable village de pêcheurs, situé sur le côté d'un étroit ravin au flanc difficile et élevé, flanc élevé et pente abrupte qui s'élargit un peu à proximité de la mer et où s'est établi un certain camp de concentration. Trois arbres rachitiques, c'est l'unique végétation que l'on y rencontre. Le soleil, battant tous les jours cet aride terrain plein de cailloux, sans qu'il soit possible d'échapper à l'ardeur de ses rayons, transformera, sûrement, l'existence des bannis qui furent envoyés dans cette vie atroce de désintégration physique et morale. Mais il y a plus. À côté de ce camp où ont déjà été installées quatre maisons démontables acquises à l'étranger, reste, comme je te l'ai déjà dit, ce misérable village de Tarrafal, une centaine de très très pauvres taudis. Aucune de ces petites cabanes n'a de toit, et tout le revêtement est de chaume. L'unique industrie de ces pauvres gens, c'est la pêche, et surtout la pêche à la baleine, dont les graisses sont fondues pour en extraire l'huile. L'odeur nauséabonde que tout cela produit, c'est, disent-ils, parfaitement et entièrement terrible. Après, là, autour des maisons démontables, des poteaux, sur lesquels sont fixés des barbelés cannelés, forment la clôture étroite du camp de prison. Crois-moi, je ne te présente pas un tableau sombre et de couleurs subjectives. Entends que l'imparfaite description que je te fais reste bien en dessous de la réalité de cet enfer, digne de la divine comédie dantesque. Plus humain et plus charitable serait, n'en doute pas ni toi ni personne, d'ordonner de fusiller les individus qui y seraient envoyés, bannis en ce lieu et dans de telles conditions. Mais assez pour aujourd'hui. Inutile de te dire qu'à la famille, et principalement à ta mère et à ton frère, rien ne devra leur être dit de l'objet de cette carte. Je continue de jouir d'une santé optimale et bénéficie de bonnes dispositions morales. Il n'y a pas de quoi avoir de préoccupations à mon égard, puisque je vis ma vie sereinement, mangeant et dormant comme un juste qui a bonne conscience. Et par rapport à vous, de la même manière je me sens en paix, puisque je n'ai jamais laissé les biens de fortune matérielle prendre le dessus sur notre nom. qui jamais ne vous fera honte. Bien au contraire. Beaucoup de bisous pleins de saudade pour mes enfants, câlins affectueux pour Adelina et pour toi. Ton papa est véritable ami, Adalberto.
Lettre d'Adalberto Gaston de Sousa Dias, général militaire d'exercice portugais, s'étant opposé au régime de Salazar. Il fut déporté à Tarrafal en 1931.
Il a un très très important pour le régime portugais, c'était ce type-là, Adalberto Gaston Sousa Dias, qui a organisé à la ville de Porto, à Portugal, la première manifestation en 1927 contre le régime fasciste. C'est pour ça qu'il était en prison. Il était en prison, mais par exemple, Mário Soares, président, premier ministre, après président Portugal, qui a dit que les gens-là, de 1931, sont les responsables pour le changement du régime portugais en 1974. Parce que la rébellion qu'ils ont fait a inspiré des autres qui continuaient. Et en 1974, ils ont fait la rébellion à Portugal qui a changé. 25 d'avril, très connu au Portugal, qui a changé le régime, qui vient encore démocratie pleine au Portugal. Donc, Saint-Nicolas a cet avantage, c'est très intéressant. Et ça me fait bien savoir que le premier médecin caverdien, c'est d'ici. La première personne née au Cap-Vert qui a fait un cours d'automédecine, c'est de Saint-Nicolas, ça me fait bien. Ils ont changé beaucoup l'île de Saint-Nicolas, surtout au niveau mental. Ici à Saint-Nicolas, les gens ont une conscience d'envoyer ses fils à l'école. Même les gens pauvres, les gens faisaient gros efforts pour envoyer ses fils à l'école à Saint-Vicente, au lycée. Cette idée vient un peu de l'influence de ces gens portugais de gauche qui vont mettre ses fils à l'école. C'est important de former les fils. Mais je parle que l'indépendance d'un pays doit être culturelle, politique, économique. Et je parle que l'indépendance culturelle du Cap-Vert, ce n'était pas en 1975. Elle a commencé en 1936 avec Balthazar Lopes de Saint-Nicolas qui a fait un mouvement qu'elle s'appelait Clarité, qu'elle commence à écrire sur l'histoire de Cap-Vert un peu, il faut faire attention pour que le régime fasciste ne détruise pas. Donc elle commence à écrire un mouvement qui s'appelle Claridad. 1936 avec ses collègues. Et à ce moment-là, elle commence à écrire le plus important roman capverdien qui s'appelle Chiquinho. C'est une histoire de la situation que le capverdien était à ce moment-là. C'est un bouquin très important qui était traduit en français pour Michel Laban, qui était traduit en Ukraine, qui était traduit aux États-Unis, qui était traduit partout. Parce que c'est un peu le dénoncement qu'elle a fait de la situation du capverdien, Chiquinho. Donc, commence à créer une conscience de pays. Voilà, c'était la colonie du Portugal. Là. Et c'était avec Balthazar Lopes. En 1936, Balthazar Lopes, Manuel Lopes, Gervais Rosa, qui ont commencé à mettre dans la tête des Cap-Verdiens la conscience d'être un peuple. Il faut voir notre pays indépendant, tout ça. Et
poème de la mer. Le drame de la mer, l'agitation de la mer. Toujours, toujours au-dedans de nous.
mar cercando, prendendo as nossas ilhas,
elle qui s'enlise et les tient captives, rongeant les roches de nos îles. Elle qui laisse les mailles de son salpêtre sur les joues des pêcheurs, mugissant dans les sables de nos graines, sa voix souffletant les montagnes, balançant les esquifs de bois qui longent ses rivages. La mer, aux lèvres, elle met des prières. Dans les yeux de ceux qui sont demeurés,
résignada de pays distants,
elle laisse la nostalgie résignée des pays lointains qui nous parviennent par le truchement des illustrés et des films de cinéma et par cet air d'autres climats qu'apportent les passagers quand ils débarquent pour voir de près la pauvreté de notre terre. La mer, l'attente de la lettre de loin venue, qui peut-être jamais n'arrivera. La mer, nostalgie des vieux marins contant des histoires temps passé. Histoire de la baleine qui, un jour, renverse le canot. Des beuveries, des rixes, des femmes, dans les ports étrangers. La mer, au-dedans de nous tous, dans le chant de la morna, dans les corps des filles brunes, dans les cuisses agiles des noirs, dans le désir de voyage qui peuple les songes de tant d'êtres humains. Ce geste d'invite qu'à toute heure nous fait la mer vers l'évasion. Ce désespoir de l'envie de partir, alors qu'il faut rester.
Poema do Mar, 1941, Jorge Barbarossa, cofondateur de la revue Claridad en 1936.
Des années 40, la moitié de la population était morte de famine parce que le régime, on était colonie de Portugal et le Portugal s'en fout. Portugal ne s'intéresse pas pour les gens, surtout Cap Vert, c'était un petit pays sans rien. s'intéressait beaucoup pour Angola. Angola, là, de pétrole, là, de tout. Cap Vert, il n'y a rien. Donc, le Portugal ne s'intéressait pas pour Cap Vert. Il y avait d'autres questions culturelles, par exemple. Et le régime portugais essayait de détruire de la culture capverdienne. Elle avait les musiques, par exemple, les batouks, qui sont surtout à l'île de Santiago. C'était interdit de chanter. Il essayait de détruire les cultures capverdiennes.
Et les populations de Saint-Nicolas, c'était, avant les Portugais, c'était plutôt des gens d'Afrique?
Non. Saint-Nicolas est un peu spécial, ça entend aussi. La colonisation capverdienne a commencé pour l'île de Santiago. Il y avait des esclaves qui étaient à Ciudad Valle, qui sont partis à la montagne, qui restaient ici. Et après, le Portugais commence à porter des gens de l'île de Madeira, des Açores, du sud du Portugal à Santiago. Et quelques îles comme Saint-Nicolas ou comme Saint-Antão, j'étais déjà mesclé à Santiago. C'est pour ça qu'à Santiago, il y a beaucoup de gens vraiment noirs. Et à Saint-Nicolas, il n'y a pas beaucoup de gens aussi noirs. Je parle de couleur. Ils sont déjà mesclés. J'avais déjà mesclé à Santiago. Donc Saint-Nicolas, c'est ça. C'est une sorte de ça. Il restait sans population jusqu'à 1500 à peu près.
Mixé deux fois alors.
Oui, deux fois, oui. Nous sommes un peuple mesclé qui a créé quelque chose de très intéressant au niveau mondial, qui a créé les créoles. Les gens pensent que le créole, c'est seulement la langue créole, mais ce n'est pas vrai. Le créole, c'est une manière, c'est une culture mesclée. C'est la première fois qu'elle a fait ce mesclage-là entre européenne et africain. Mais, c'est comme j'ai dit, nous avons ici une culture. Ce n'est pas portugais, ce n'est pas africain.
Vos ancêtres africains, c'était essentiellement des esclaves?
Oui. Le fleuve, c'était très fort, très fort. La Ciudad Velha, c'était un hyper marché d'esclaves. Donc, il y avait le Capverdien qui commence à faire des études, qui a décidé, et le plus important, c'est Balthazar Lopes, qui a fait de gros travail avec ses collègues pour mettre dans la tête des Capverdiens que nous avons une culture propre. Il faut prendre notre culture, pas la culture portugaise. Et même Balthazar Lopes passait très mal avec le régime colonial portugais à cause de l'influence et de ses idées sur une culture vraiment capverdienne qui était importante de préserver.
Vai comer nos papas.
Quand les Portugais disent non, vous êtes Portugais, il faut prendre la culture portugaise. C'était pas beau de chanter le bateau, le folana, qui sont les musiques traditionnelles, des revendications, tout ça, c'était interdit. Donc il avait un problème culturel, il avait un problème politique de Portugal qui ne s'intéresse pas pour nous ici. Et ça, les Cap-Verdiens étaient d'accord. C'est pour ça qu'ils ont demeuré ici à Guinée-Bissau pour faire la guerre. Il avait des gens qui étaient immigrés à Hollande, à France, surtout en France, et des autres mapos de partout, de l'île de Santiago, il avait beaucoup, de Saint-Antoine, il avait beaucoup, de Saint-Antoine surtout. Saint-Antoine a une espèce de relation immigration, surtout avec la France et Luxembourg, le Saint-Nicolas, Hollande, un peu comme ça. Et les gens de Saint-Antoine, qui étaient à Moselle, dans les usines, sont recrutés là pour la guerre. Il a pris les gens à Guinée-Bissau. Il a fait une armée de Cap-Verdiens et de Guinéens. À la tête de la lutte, il avait Amílcar Cabral, qui était un type génial, 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 qui a fait surtout, il a même l'influence au régime Angola et à Mozambique aussi. Il était une tête brillante. Qui a fait beaucoup de choses, et on a gagné la guerre, et on a l'indépendance. Bien.
Tu as des personnes de ta famille? Tu parlais de Cabral.
Non. De ma famille, non. Mon père, à ce moment-là, était immigré à Hollande, mais le papa allait à la guerre. Et ils ont dit, je pense que Amílcar Cabral, il était petit-fils d'une femme de Saint-Nicolas. L'histoire de Cabral, Amílcar Cabral, ça vient de Saint-Nicolas, de sa grand-mère. Amílcar Cabral était un élève de Balthazar Lopes, il a pris sa conscience, et après de ses études, il est reparti à Guinée-Bissau, il a essayé de parler avec le gouvernement portugais, mais il n'accepte pas, donc il était obligé de faire la guerre à Guinée-Bissau.
Donc le régime de Salazar, il a été renversé en 1974.
Oui, 1974. Il y avait comment ça s'appelle, un golpe d'État à Portugal qui a changé tous. Un peu obligé, il faut dire ça, il avait la guerre à Guinée-Bissau, il avait la guerre à toutes les colonies contre l'armée portugaise, à toutes les colonies à Mozambique, à Angola, à Limpélia, Frelimo à Mozambique. Au Cap-Vert, c'était le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert et Guinée-Bissau. Mais c'était possible de faire la guerre ici. Ils ont fait, les Cap-Verdiens ont fait la guerre à Guinée-Bissau. L'armée cap-verdienne, avec les Guinéens et le Cap-Vert, était très forte. Elle a tué beaucoup de Portugais, tout ça. Donc, au Portugal, elle était obligée. Le régime était fragile à ce moment-là. Et le militaire, boum, il a changé le régime. Pour la guerre qui était faite à Guinée-Bissau, surtout. À Angola, à Mozambique, mais surtout à Guinée-Bissau, où beaucoup de Portugais sont morts à cette guerre-là. Et après, via l'indépendance de Cap-Vert, en 1975, à cause de ça, on avait l'indépendance. Donc nous sommes un pays libre de 1975.
Les personnes qui étaient contre le régime dictatorial, donc plutôt des gens de gauche, étaient alliés, se sont alliés avec des personnes anticolonialistes.
Oui, portugais, c'est ça. Même ici au Cap-Vert, on avait des portugais ici, portugais. Et il a fait une espèce d'alliance entre les gens de gauche et avec les anticolonialistes, c'est vrai. Et en 1974, il avait des prisonniers à Santiago, qui sont en liberté, et aussi au Portugal, en 25 avril de 1974. Et à Saint-Nicolas, à Cap-Vert, donc à l'île de Santiago, le 1er mai 1974, il a offert la prison et tout le monde était à liberté.
Et est-ce qu'on le voit de ta fenêtre, l'emplacement à peu près du camp ?
Il a une maison verte là-bas au fond, oui. Au fond, une maison bleue, verte. C'est un peu à côté, rentrez ici.
Ici.
Là, c'est le quartier des Jean-Baptiste, ça s'appelle le quartier des Jean-Baptiste, qui est tout jeune. À ce moment-là, il avait rien là-bas. Il avait que le bâtiment qui était en bois, que l'Allemagne a donné à Portugal. Portugal a envoyé ici 9 bâtiments grands où les prisonniers étaient. Mais Tarrafal, il n'avait rien de ça. Ça, c'est tout jeune. C'est tout jeune. Tarrafal, il a 100 à peu près 101. Avant, il avait que des petites maisons, où il y avait des pêcheurs qui viennent de haut pour pêcher, qui retournent, qui restaient quelques jours. Ils savaient tout. Et c'est juste pour ça qu'elle était choisie pour faire la prison. Pour que les gens fassent très mal, qu'elle est morte, tout ça. C'est terrible. Et c'est dommage que cette histoire, il n'est pas aussi connu. J'ai fait beaucoup à la télévision cavardienne, à la télévision portugaise. Donc j'ai fait un peu d'effort pour faire connaître un peu de l'histoire de ce régime fasciste qui est passé pour l'Europe. Pour voir un peu ces gens, parce que je pense que même l'Europe, elle commence à venir, le régime, la droite, qui vient un peu très fort. Qui vient donc, il faut que les gens connaissent un peu cette histoire pour savoir qu'est-ce que c'est ce régime totalitaire de droit.
Un grand merci à José Cabral. Merci à Teresa, à Melindo, Marianne, Jade, Ginia, Rosa. Merci à Mathilde Lacroix pour les sons électroacoustiques et à l'émission Inouï. Merci à Robin et Johan, les docteurs ordinateurs.
à Tarrafal, janvier 2021.